las conferències de Radio Languedoc. Début de février de 2013, se debanèrent un apesenas dans jornades de rencontre sur le PCI, patrimoni cultural i material. Aquelles jornades, manejades per le collectiu Patrimoine et Création, en partenariat amb el CIRDOC de Béziers, recampèrent cercaires i actors de terreny. Es canviaron ses pratiques, ses reflexions sur la sauvegarde et la transmission del patrimoni cultural immaterial occitan. Vos preparant d'escutar la seguida de les intervencions presentades le 17 et 12 de février de 2013 al Teatre Molière de Pézenas.
La récente reconnaissance justement patrimoine culturel immatériel du Festnoz breton nous montre l'importance de la musique festive et populaire dans notre société. Mais surtout aussi, ce que je trouve très important, c'est qu'elle redonne un espoir à acquérir un peu plus de reconnaissance de la part de l'État français envers ses cultures régionales. Ça, c'est très important. Alors, la Bouddègue, donc moi, je suis musicienne et passeuse. Je suis tombée amoureuse de la Bouddègue, j'en ai fait donc mon métier. Et qui est-elle ? La Bouddègue, c'est une cornemuse, pas n'importe laquelle, déjà c'est la plus belle forcément. C'est une des plus volumineuses aussi, puisqu'elle est faite dans une peau de chèvre entière. Donc là, c'était juste une carte pour que vous vous rendiez compte de la diversité du monde des cornemuses. À chaque fois, on ne peut pas dire la cornemuse, à chaque fois, c'est un instrument particulier qui porte une identité, qui porte une culture, qui a sa morphologie, sa sonorité, sa tonalité, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails musicaux, mais c'est un monde très, très riche. Alors, la suivante. Donc, la Bouddègue, donc cette cornemuse, c'est la nôtre. Elle s'appelle Bouddègue ou bien elle s'appelle Grabo. Grabo, donc c'est un autre nom du même instrument. C'est la cornemuse de la Montagne Noire, languedocienne, et du Lauragais. Donc, dans la partie nord de son aire de jeu, elle s'appelle la Grabo. Grabo Cabro, c'est la chèvre, bien sûr. Et dans la partie sud et le Lauragais, elle s'appelle principalement la Bouddègue. Bouddègue en occitan, ça veut dire outre. Outre, et aussi dans le parler audois, ça veut dire personne ventrue, on va dire. Donc, on s'associe très bien. Alors, la cornemuse, la suivante, s'il te plaît. Voilà, juste localisation. Le Lauragais, il est en bas à gauche. Donc on peut quand même dire que c'est aussi une cornemuse méditerranéenne. Elle appartient à la culture méditerranéenne. Son anatomie, voilà, vous avez une opelle des crabes. Alors voilà, moi je suis pas d'ici. Je n'ai pas l'occitan dans mes chromosomes. Donc en fait, je viens du Grand Nord, du pays des géants, des dragons, de la Belgique. Et donc cet instrument, il m'a appris ce que c'est une culture, en fait. Grâce à lui, c'était automatique pour moi d'apprendre la langue de cet instrument, parce qu'on chante en occitan, elle chante aussi en occitan, elle n'a pas de nom français, donc c'était une démarche tout à fait logique de ma part d'apprendre sa langue et son répertoire, bien sûr. Donc, une opelle de Grabo. La bunde, c'est le long tuyau qui résonne, qui est le bourdon. L'ugraile, c'est le nom de la partie mélodique du hautbois. Tandis qu'ici, à cette pézenas, on l'appelle le hautbois ou la hautboy. Nous, on dit l'ugraile. D'ailleurs, le hautbois des monts de la Cône s'appelle l'ugraile. Et en bas, vous avez donc les caramels, faites de roseaux. Une hanche double pour l'ugraile et une hanche simple, très rudimentaire, pour le bourdon. La suivante. Alors, donc, on a dit une peau de chèvre. Une peau de chèvre, c'est pas anodin, parce que c'est une peau de chèvre entière. Dans le monde des cornemuses, beaucoup sont faites à partir d'une peau de chèvre et beaucoup d'instruments reproduisent sa symbolique. Donc ici, vous avez une cornemuse slovaque, où on voit, ils ont laissé, eux, les poils dehors, la bouddhègue, les poils sont à l'intérieur, mais ils se sont sentis, l'élément décorateur est très très important, donc une tête de chèvre, suivante, encore une cornemuse slovaque, où là, ce qui est particulier, c'est elle est très touchante, aux pattes de l'animal, ils ont mis, ici c'est des morceaux de bois, mais j'en ai vu qui s'encornent, parce que toujours cette volonté de représenter la chèvre. Alors nous, la bouddhègue aussi, on a les pattes qui se lèvent quand on gonfle. Pourquoi ? Parce que c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est bien plus simple de profiter des orifices naturels de l'animal pour mettre à une patte un tuyau, à une autre patte un autre tuyau, le loup gras il est à la tête, voilà. Mais non, non, ici, nous, on a voulu vraiment garder cette morphologie, c'est-à-dire qu'on a troué le pitre de l'animal, donc la poitrine, pour insérer le buffet et la bundo, voilà. Et pour garder cette morphologie, alors pourquoi ? Là, moi, je n'ai pas les compétences pour parler de ça, mais c'est quand même très chargé de symbolique. Nous aussi, on se le dit qu'entre musiciens, mais quand on joue la bouddhègue, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Parfois, on dit, tiens, on est avec quelqu'un, on n'est pas seul. Donc, il y a quelque chose d'assez fort. Alors, cette symbolique, est-ce que moi, je m'étais dit que je ferais le lien avec la communication précédente qui parlait des mégalithes et des pierres levées. L'aire de jeu de la bouddhègue contient énormément de dolmens, de pierres levées aussi. Donc, est-ce que ce serait des réminiscences peut-être d'une religion animiste, ou est-ce que, voilà, ça existe depuis très longtemps. Moi, personnellement, je suis intimement persuadée que cet instrument a pu être utilisé, par exemple, pour guérir. Les sons sont tellement riches en harmonique qu'il y a quelque chose qui se passe. Un autre élément très important, ce sont les décorations. Actuellement, on n'est pas toujours... on fait ce qu'on veut. C'est très pratique, par exemple, pour manifester dans la rue, parce que la bundo permet d'inscrire derrière ce qu'on souhaite, comme aux manifestations occitanes. Mais ici, avant, la décoration était très, très, très importante. Et on va passer le bonus décoration du film, si tu veux bien. Alors, il faut savoir que cet instrument n'était joué principalement que par les garçons. Aucune fille ne jouait de cet instrument. Les filles, elles avaient seulement le droit de faire les pompons pour décorer l'instrument de leur futur chéri. Donc, on va regarder là maintenant un petit extrait, le bonus du film que vous avez en vente en bas. Donc là, c'est Xavier Vidal qui parle et qui dit qu'il a toujours gardé les... Ah bon, vous allez l'entendre en direct.
La décoration. Elle a débuté aussi. Quand tu as vu la bouddhègue, après le conservatoire occitan, elle a eu pas de décoration. Mais après, quand elle commence à veiller des photos, Daniel Lodo qui est souvent parce qu'il y avait toute la décoration.
Guinzaudo, ce qui est des Pays Bas, les franges étaient toujours rouges. Et Mas me disait,
toujours rouge, je pensais qu'on avait mis la version française.
Et
dans l'Aude, les franges étaient toujours rouges.
Ils mettaient des spauletos des soldats.
Parfois, ils utilisaient ce qu'ils avaient, ce dont ils disposaient.
Non, parce que dans le nord, là, les franges étaient de toute la scoulouse.
Et dans le nord de l'ère de jeu.
Il fallait quelque chose qui sort, qui pète. Vous voyez, quelque chose comme on dit chez nous.
Claude Romero.
Et alors, ils mettaient des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ils mettaient aussi bien des trucs qu'on trouvait sur les rideaux des maisons, des tentures, des trucs des militaires. C'était un peu les hippies quoi, dans la musique, ces gens-là, comme on appelle. Ils étaient modernes, à cette époque-là. Ils se faisaient remarquer, disons. Voilà, c'est à cause de ça.
Et avait pris la couleur acquis.
Xavier Vidal avait pris donc les couleurs du drapeau républicain. Puisqu'il est d'origine espagnole. C'était important pour lui de...
Et les amusants des baisers, c'est que d'un côté c'est dit la crave et ici c'est dit la bouddhègue. Avec une montagne, mais avec deux climats différents, a un instrument que ne metteis, mais a medou in un différent. Comme a ben ici, le monde sont sempre socialiste, en fin, progressiste, non pas que dans le nord, traditionnellement, sont mai de droit, les barous.
Donc la notion politique dans les décorations. Il y a
des mentalités qui sont un peu différentes. La guerre des religions, c'est parce qu'elle rentre dans le monde de Massamet. Et le monde d'ici, venant de là pour se bastéger, mais à qui est d'ici.
Merci Christine pour la technique. Alors maintenant, on va parler de ceux qui jouaient cet instrument, donc Boudegaires et Krabaires, et les circonstances de jeu. Cet instrument accompagnait en fait la vie de tous les jours, ponctuait la vie de tous les jours. Les moments les plus importants, ben, c'était bien sûr le baletti, parce que le bal permettait à tout le monde de se rencontrer. Mais il y avait un moment, par exemple, où la boudègue était autorisée à rentrer dans l'église, c'était pour les Nadal, il y a un grand répertoire de Nadal. Les mariages, les veillées, bien sûr. Et par contre, pour le bal, il y a une connotation très particulière. Dans les villages, il y avait deux bals. Ça nous montre la connotation sociale de la boudègue qui était jouée principalement par des métayers, des valets de ferme, des gens qui vivaient même pas dans les villages, mais dans les écarts. Donc c'était vraiment la couche sociale du monde rural la plus pauvre. Et donc dans les villages, il y avait deux bals. Il y avait un certain Colombier dit Pairol, qui était métayer à Encalcate, à côté de Dourgne, qui était réputé pour son habileté inégalée sur la cornemuse. Et pour la fête locale, donc la fête, le bal du village se passait sur la place centrale, avec l'orphéon, les pistons, etc. Et à la sortie du village, ou la rentrée, c'est selon, il y avait le bal à la boudègue, ou une pifre, ou un tambour, et voilà. Et donc, pour ce fameux colombier, il y avait davantage de danseurs à s'animer au son de sa crabe que sur la place où trônait l'orphéon. Les musiciens, même en été, même chagrinés. Voilà. Après, on peut revenir au PowerPoint. Voilà. Lui, il est très important. Il s'appelle Luis Mas, dit Carbonado, parce qu'on utilise aussi beaucoup les escaiches. Et Carbonado a été un des derniers vivants, boudegaire vivant du Mas Cabardès. Et il a été collecté par Didier Olive, qui joue avec nous, qui n'est pas là aujourd'hui. Et Didier Olive a fait un énorme travail. Il a fait plus que du collectage parce qu'il a accompagné vraiment ce monsieur. Donc, il lui a transmis comment construire l'instrument, etc., le répertoire suivant. À gauche, nous avons Paul. Alors voilà, Paul, il faut savoir que cette photo, elle est datée de 1901. Elle fait peut-être 4 cm carrés. Elle a été retrouvée dans un livre photo de famille. Et on ne sait pas. Paul, moi je crois que c'est Paul Dresseil. Et en tout cas, on dit merci à Colline parce que c'est lui qui a retrouvé cette photo. Alors, Émile Bio dit Milou Biaou. C'est un personnage très important parce que là, chez lui, chez les Biao, c'est une histoire de famille. Il était très connu, il est passé à Radio Toulouse, il était un beau dégât, il restait renommé. Et le petit-fils de Milou Biao, il s'appelle Guy. Et il est venu me trouver un jour pour apprendre la boudègue, pour jouer, pour améliorer son jeu. Et le petit-fils, tenez-vous bien, le petit-fils de Guy, il s'appelle Antonin, il a 9 ans, il joue la boudègue depuis un an, il joue déjà merveilleusement bien, comme s'il était né déjà en sachant jouer. Donc dans cette famille-là, comme à l'époque c'était des affaires de famille, parce que la transmission était un instrument de transmission orale, bien on apprenait en famille ou avec les voisins, voilà. Donc, cette tradition de grand-père en petit-fils, elle est très forte parce que vous verrez une photo d'Antonin à la fin. Donc, voilà, la boudègue était suivante. La boudègue était une occasion de rencontre entre les jeunes gens. On a du mal à s'imaginer que dans le monde rural, en fait, les jeunes gens, ils n'avaient pas tellement d'occasion pour se rencontrer. Donc, cet instrument, eh bien, il permettait des rencontres et parfois plus si affinités. Donc je ne résiste pas tant pis si je suis longue, au plaisir de vous faire entendre la langue, parce que même pour un instrument de transmission orale, nous avons dans le Lauragais un félibre rouge, Prosper Espiou, qui a écrit sur cet instrument, et ce sonnet que je vais vous dire en occitan, dont vous verrez la traduction ici, il retrace exactement, il retrace très bien, je trouve, la position sociale de cet instrument. Quand l'outens se placia au lanet, et que d'effort trebi per apazima mon auri pensament, ausis i remenils del rustic instrument, qu'es majomen presat de l'abecedo anor. D'abancado bord un tino drollo de moro, la boudego zun zun appassionadoment, et une goujat amorous, sans pausa un moment, din l'appel de moutou buffo que se dégoro. Et los pumpins dels biels, qu'eron arrobiliats, trifusissun, sul cop son esperdigaliats, et cum a l'urbintans, sauton subre la hierre. Mentre que, Seixugan a mes moukadou, l'astre de trop dansant, la joube au cammassiero a gaito al deraubat, le pastre troubadou.
Las conferences de Radio Languedoc.
Alors maintenant, voilà, cet instrument, il a une histoire parallèle, justement, celle de la langue occitane, c'est qu'il y a eu un moment de bergugno, comme on dit, c'est-à-dire que pour réussir dans la vie, il fallait surtout pas parler occitan ou patois, bien sûr, il fallait surtout pas jouer la boudègue non plus. Déjà, l'accordéon arrivait, l'a supplanté parce que c'est plus pratique, c'est plus moderne. Et donc, voilà, ce moment de bergugno, la boudègue l'a ressenti très fort. Peu d'instruments ont survécu, beaucoup sont allés au feu. Et donc, le premier renouveau s'est passé dans les années 60 grâce à Charles Alexandre, un breton, qui est venu ici, qui s'est installé à Villardonnel. Avec sa mobilette, en quelques jours, il a pu rencontrer des dizaines de sonneurs anciens, de Boudegares, de Crabaires, qui, in extremis, il a sauvé cet instrument parce qu'en fait, ces personnes étaient tellement âgées qu'elles n'avaient plus la force physique pour jouer de l'instrument. Et n'avait plus d'instruments à disposition. Donc Charles Alexandre, premier renouveau, avec le Conservatoire Occitan de Toulouse, ils ont reconstitué un instrument, et voilà, c'était relancé. Eh bien, non, pas tout à fait. Voilà, par exemple, ici, à la fête de Villardonnel, fête des châtaignes, qui est devenue une fête très, très, très populaire et très connue, même hors département. Mais vous voyez, à gauche, il y a Charles-Alexandre. Au centre, vous avez Piquette, qui dit le rossignol de la Montagne Noire, qui chantait. Et Daniel Géry et Guy Beaubois. Voilà, donc cet instrument, il a vécu à Villardonnel. Il était joué par quelques personnes. Et il y a quelques moments, ça fait 15 ans que je joue de cet instrument. Et à ce moment-là, eh bien, il y avait une douzaine de personnes en tout dans le monde entier qui jouaient de cet instrument. Pourtant, il y avait eu ce renouveau. Et pourquoi il n'y avait pas plus de gens qui en jouaient ? D'une part parce que elle était considérée, on la restreignait à son aire de jeu, au répertoire de son aire de jeu, et surtout la première réponse, c'est parce qu'elle n'était pas transmise. Et la transmission, c'est quelque chose de fondamental, surtout pour des cultures de tradition orale. Donc, en 2002, l'ADDM, donc l'Association départementale de développement de la musique et de la danse dans l'Aude, s'est préoccupée de cet instrument et m'a posé la question directement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'elle a un avenir ou pas ? Et en fait, ils ont organisé une semaine avec des concerts, des animations pour les scolaires, des expositions, des balles, et ça s'est terminé par une grande table ronde qui a invité tous les praticiens, tous les gens qui travaillaient sur la boudègue, que ce soit des chercheurs, des facteurs d'instruments, que ce soit des musiciens, bien sûr. Et là, on s'est dit, il faut créer un groupe interrégional, parce que vous avez vu cette petite montagne noire, en fait, elle est divisée en 4 départements et 2 régions. Donc, de rassembler tous les efforts sur cet instrument, c'était fondamental. Le premier résultat de ce groupe interrégional, c'était donc la publication en 2004 d'un CD, triple CD anthologie, avant, si tu veux bien, on reste sur la première photo, on y est tous là, encore avant, Gorlin. Merci. Donc la grande bande de Boudaigues est née à Saint-Chartier pour honorer la sortie de ce triple CD anthologie. Et c'est la première fois que autant de Boudaigues se sont rencontrés. Ensuite, dans ma pratique artistique, j'ai voulu ouvrir le répertoire. Certains morceaux que je jouais, certains m'ont dit « mais ça, tu n'as pas le droit de le jouer ». Cette réflexion m'a beaucoup choquée parce qu'à partir du moment où un instrument de musique est un instrument de musique, ben, il peut jouer toute la musique qu'il est capable de jouer, surtout que ça sonnait très très bien cet instrument. D'autre part, moi j'ai rencontré, j'habite pas très loin de Limoux, voilà, le carnaval le plus médiatique au monde, enfin médiatisé, alors que ça s'appelle les Fécos, c'est le carnaval de toute la Haute-Vallée de l'Aude. Donc c'est le répertoire du carnaval de Limoux est très intéressant pour la Boudaigues, d'une part techniquement parce qu'il ouvre à des difficultés techniques très intéressantes pour faire progresser carrément le musicien, mais surtout est rentré dans une tradition. Et là aussi c'est quelque chose de très fort, parce que carnaval à Limoux, pourquoi une tradition elle est forte, pourquoi elle résiste, c'est aussi parce qu'elle a beaucoup de règles. À Limoux, il y a beaucoup de règles, donc on n'y rentre pas comme ça. Donc, oser aller à Limoux, jouer leur musique, et avec des masques, etc., mais avec un instrument qui, normalement, ne le fait pas, mais c'était oser, c'était risqué. Eh bien, parce qu'on a travaillé dans le style, on est arrivé, ils ont été très surpris, le public était très surpris, puis pour finir, maintenant, chaque année, on y va, chaque année, ils nous attendent avec plaisir. Donc, c'est la preuve qu'une tradition peut aussi évoluer à la fois à Limoux et à la fois nous, notre répertoire, on peut le faire évoluer. J'ai aussi eu la chance de participer à un festival de jazz où l'instrument s'est trouvé en plein milieu de six compositeurs audois qui ont écrit pour cet instrument, intégré dans un orchestre de jazz. C'était une expérience fabuleuse et là de nouveau elle a montré qu'elle avait plein de possibilités. Ensuite, donc, je disais que le plus important, c'est la transmission suivante. C'est bien la transmission, donc j'ai créé mon école de Boudaigues à Villardonnel, puisque c'était important de le faire dans l'ère de jeu. Dans cette école, on apprend à jouer de l'instrument. On a aussi monté un groupe où ce groupe est accessible à tous ceux qui pratiquent. Dès qu'ils savent maîtriser un petit peu l'instrument, ils peuvent jouer tous ensemble, parce que la pratique collective, c'est quelque chose de fondamental, à la fois pour faire évoluer, se comparer aux autres, pour faire évoluer la pratique de l'instrument, et puis pour partager sa passion avec un public. Et cette notion-là, elle est très importante, parce que depuis que l'école de Boudaigues existe, depuis, 8 ans, nous avons été sollicités pour participer à beaucoup de fêtes de terroir, des fêtes locales, des festivals. Et du coup, la population de cette aire de jeu a pu se réapproprier son instrument, a pu se réapproprier sa culture. Et cette notion-là, elle est très importante. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer des sardes, des chanteurs sardes, qui m'ont dit, ben voilà, depuis que le canto à ténor, donc c'est une manière de chanter particulière en Sardaigne, depuis que notre chant est reconnu au patrimoine culturel immatériel, eh bien, le premier résultat, c'est chez nous. C'est chez nous. Maintenant, on est considérés, on est reconnus, et pour eux, c'était très, très important. Et pour la Boudaigues aussi, c'était très important qu'elle récupère une place dans une position sociale dans la société. Ça a même été jusque l'équipe de rugby à 13 de Carcassonne, suivante s'il te plaît, nous a demandé de les soutenir pour un match important. Alors là, on est un peu tombé des nues, mais on s'est dit bingo, parce que ça veut dire que ben, la Boudaigues, elle est utile. Elle a soutenu le rugby, d'ailleurs on l'a tellement bien fait qu'ils ont gagné. Ensuite, suivante. Voilà, création d'un modèle pour les jeunes, parce que cet instrument, il faut qu'il soit vraiment enseigné, qu'il gagne l'enseignement artistique officiel. Donc, il était important de créer un instrument pour jeunes publics. Là, vous voyez Antonin, qui a 8 ans ou 9 ans, et qui a un petit bourdon. En fait, il a un bourdon beaucoup plus petit, parce que une poche faite par son grand-père, et un bourdon plus petit, parce que ce bourdon, il est très pesant. Mais donc, ce modèle jeune public existe, donc je pense que la bouddhègue, elle a un avenir important. Suivante. Donc, j'ai réalisé aussi un film documentaire, dont on a vu un petit extrait. Ce documentaire, j'ai souhaité le sous-titrer en 6 langues pour l'ouvrir à l'Europe, pour l'ouvrir au monde des cornemuses entier et à toutes les cultures. Tout ce que alors, il y a une partie pédagogique, il y a une partie facture instrumentale. Tout ce que je n'ai pas pu mettre dans le DVD, je l'ai mis dans un livret qui accompagne ce double DVD, parce qu'il y a 2 DVD. Et donc voilà, c'était cette publication. J'ai eu la chance d'obtenir le prix Charles Cros en 2010. Et enfin, pour terminer, l'étape suivante, c'était une rencontre, une très belle rencontre avec un autre instrument, notre équivalent en pays basole, c'est-à-dire l'instrument de la plaine, le hautbois. Donc avec, nous avons fondé une troupe école dont on parlera demain, donc je ne m'apesantis pas là. Nous avons créé une troupe école, nous avons rassemblé avec Alain Charrier tous ses élèves du conservatoire de Sète, de l'école de musique de Pézenas. On a mis tout ça ensemble, tout ça soutenu par un pupitre de percussion sous la baguette de Coco Lemeur. Et c'est une expérience merveilleuse, parce que nous sommes en fait une troupe emblématique de la culture, de notre culture régionale. Et nous avons aussi, pour ça, découvert les traditions de l'autre et créé pour cette troupe un répertoire particulier. Je vais terminer, si vous le voulez bien, avec un petit morceau de musique. Je vais mettre 20 et vous pourrez lire à ce moment-là des témoignages de Sonner. Merci beaucoup.
Lors la séance, on va peut-être donner la parole rapidement à Jean-Louis Tornator, puis à Benjamin Assier, et ensuite le groupe Marée Montagne nous accompagnera en musique pour sortir du théâtre, nous rassembler en cortège à l'entrée du théâtre et rejoindre le départ de l'Assemblaise.
Je ne suis pas dans la position de celui qui amène la bonne parole, surtout de Paris, puisque moi je suis du sud-est, Donc j'espère que mon accent s'entend encore un peu. En tout cas, je ne l'ai jamais vraiment perdu. Et c'est vrai que le provençal, je l'ai entendu parler dans mon enfance par ma grand-mère. Juste une réflexion par rapport aux deux communications que j'ai entendues. Bien évidemment, il y a une progression du PCI vers la langue. Alors, c'est progression du PCI vers la langue et retour. Mais avec cette particularité, il faut noter que la convention de l'UNESCO est une convention qui n'aménage qu'une place, en quelque sorte, marginale à la langue, puisqu'elle est mentionnée au titre de la première catégorie comme vecteur des expressions orales. Mais finalement, effectivement, est-ce que c'est pas un manque ? Est-ce que ce n'est pas un manque de la convention que de ne pas assez insister sur la question des langues ? Et puis il faut souligner, je suppose, qu'au ministère de la Culture, ce sont deux services différents qui s'occupent l'un du PCI et l'autre des langues régionales. Mais finalement, votre dernière réflexion, elle fait réfléchir justement lorsque vous avez souligné que vous avez parlé souligné de le service qui s'occupe de, enfin, la catégorisation de votre film et qui reçoit des subventions non pas au titre de l'Occitan, mais au titre précisément du film, laisse à penser finalement que la convention irait dans votre sens, c'est-à-dire au sens où en ne mettant pas l'accent sur la langue, mais sur les expressions, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de faire revenir la langue, non pas par la petite porte, mais par la grande porte ?
Je vais laisser Benjamin ainsi.
Bon, juste un mot de conclusion, et puis des merci à Jamène. Voilà, je pense que vraiment on peut remercier les organisateurs de cette journée et puis pour la qualité des interventions. Et puis au nom de toute l'équipe du CIRDOC, c'est aussi une occasion pour moi de souligner la qualité de la création et de la recherche, que ce soit les nuits atypiques de Patrick Lavaux, que ce soit ce que fait Sophie Jacques avec la Boudègue, que ce soit ce que fait Claude Alran, que ce soit ce que font les filles du Théâtre des Origines. Donc un grand merci à tous, et vraiment, parce que je sais que ça a été fait dans un calendrier très court, ces journées d'aujourd'hui, je vous félicite, voilà. Merci beaucoup.
Cosero la seguida delle intervenzioni realizzate a Pesenas il 17 e 12 de febbraio del 2013 in l'incastro del seminario organizzato per il collettivo Patrimoine e Creazione sulla tematica del PCI, Patrimoine Culturale Immateriale, in partenariato con il CIRDOC de Béziers.